Bonjour chers auditeurs de RLP, vous avez un nouveau rendez-vous avec l'histoire du Périgord et des Périgourdins présenté par les membres de la Société historique et archéologique du Périgord. Eh bien aujourd'hui nous allons nous intéresser à un chantier de fouilles en Dordogne, et pour en parler, j'ai invité Christian Chevillot et Eneco Eriart, à qui je vais demander l'un après l'autre de se présenter brièvement.
Bonjour, donc Christian Chevillot, moi je travaille sur la proto-histoire, donc les périodes qui sont comprises entre le néolithique et les Gaulois, donc la soi-disant romanisation, on en reparlera, et donc depuis 47 ans en Périgord, donc... Et actuellement, ma passion, c'est les Gaulois pétrochores.
Et bonjour, donc Eneco Eriart. Alors, je suis chercheur au CNRS, au laboratoire Iramat Serpedeza, l'université Bordeaux-Montaigne. Et donc, je suis aussi archéologue proto-historien, donc sur l'âge du fer, avec deux spécialités, pour ainsi dire. Donc, l'apparition des premières agglomérations, des premières villes à l'échelle de l'Europe, l'Europe tempérée, et aussi l'apparition des pièces de monnaie dans les sociétés d'Europe tempéré, donc de l'Europe celtique.
Bien, alors je crois qu'aujourd'hui on va parler essentiellement d'une ville, de la découverte d'une ville. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les fouilles qui se situent actuellement à La Pérouse ?
Alors, je pense que pour parler de l'histoire de La Pérouse, il ne faut pas seulement évoquer les fouilles, parce que les fouilles finalement c'est une aventure récente, hein, donc qui ont commencé cette année, en 2020. Mais la grande aventure qui nous a amené à connaître ce site de La Pérouse, c'est Christian Chevillot qui l'a amorcé en 2014 à partir
voilà,
de la découverte.
Donc moi, je vous disais tout à l'heure que ma passion, c'était les pétrochores, mais j'ai deux thèses de doctorat concernant la fin du néolithique et surtout l'âge du bronze. Donc maintenant, ma fin de carrière, ben, je la consacre entièrement à ces pétrochores qui sont méconnus, qui ont été beaucoup oublié dans un pays où on ne parle que de préhistoire. C'est pas un reproche, c'est une constatation. Et donc on les a un peu oubliés, et donc ma recherche, moi, c'est de mettre en valeur la réalité de ce peuple gaulois qui n'est pas très étendu en territoire, mais qui a une importance parce qu'il fait un relais entre les peuples du centre et Atlantique et ceux de la Méditerranée, finalement. Et donc, moi, je prospecte le Périgord depuis, je vous dis, 47 ans. Et en 2014, j'ai été amené à identifier une découverte sur le secteur de La Pérouse. Et donc, le propriétaire m'a amené voir une grotte où il y avait quelques objets. Et puis, finalement, ces objets n'étaient pas nombreux. Hein, donc, quand on est remonté du vallon et qu'on est passé sur le site est en cours de labour, je lui dis, est-ce que là, vous ne trouvez rien ? Il me dit, si, on trouve énormément de restes de tuiles. Il devait y avoir une tuilerie qui était... Et c'est vrai, il y avait un lieu-dit, la tuilerie, pas très loin, en plus. Il me dit, il devait y avoir une tuilerie. En fait, moi, je rentre dans le champ, c'était le 1er juillet 2014, je me rappellerai toujours. Et à la place des morceaux de tuiles, j'ai trouvé des fragments d'amphores qui amenaient du vin d'Italie au 3e, 2e et 1er siècle avant notre ère.
Et donc, vous pouvez nous rappeler où se situe La Pérouse en Dordogne ?
La Pérouse, c'est un site qui se trouve sur la commune de Saint-Félix de Villadex. Alors, actuellement, le site est situé sur un plateau entre Caudeau et Louire, qui paraît tout à fait anodin. Or, en fait, il y a une voie gauloise, une autoroute gauloise qui passe là. Et donc le site est en bordure de cette autoroute. Et il y a un croisement, parce qu'il y a une deuxième voie, qui est appelée la voie romaine actuellement sur la commune, et qui est en fait la voie des intendants d'Aquitaine, qui au XVIIe permettait de joindre Bordeaux à Brive.
et l'autre est une voie nord-sud.
Oui.
Qui va d'où à où ?
Alors cette voie, elle part d'Avaricum, dans la terre de Bourges, passe par Limoges, par Périgueux, ensuite elle passe par La Pérouse. Alors, Atur, le Breuil, Vert, le temps de Neufond, elle remonte par Saint-Maurice, Et elle arrive à, pardon, Saint-Amand-de-Vert, elle arrive à Saint-Maurice, elle traverse le Caudeau et elle se dirige sur Mouledier pour aller où? À Villeneuve-sur-Lot, Excizoum, et ensuite à Agen. Et de là, eh bien, vous avez ouvert l'axe Haute-Garonne, donc c'est la Méditerranée qui est ouverte.
Voilà. Et de quand datent les vestiges qui, principaux de cette cité pétrolière?
Alors, écoutez, on a trouvé de très très rares éléments qui pourraient montrer qu'elle a débuté à la fin du IVe siècle avant notre ère. Mais c'est surtout à partir du IIIe, ce qui est confirmé, et Néco en parlera tout à l'heure, par le monnayage, justement. À partir du IIIe, la ville va prendre un essor important, surtout entre 250 et, disons, 80-90 avant Jésus-Christ. Après, il y a un fléchissement, mais pas abandon de l'habitat, parce qu'on a même un peu de gallo-romain, et on a même du mérovingien, c'est-à-dire que c'est un site qui va fonctionner entre le Caudeau et le plateau pendant au moins 1000 ans. Donc cette route a gardé une importance.
Et par contre, quand on y va maintenant, on a vraiment l'impression d'aller au fond des Picardies,
mais
dans le désert.
C'est... Oui, parce que les Gaulois étant des gens qui construisaient en terre et en bois, qu'est-ce qui subsiste de leur construction? Que des trous de poteaux. Donc les gens qui arrivent, j'ai dit, voilà, on vous présente une des villes les plus vieilles connues en Europe occidentale, en Gaule, en Gaule interne. Les gens, mais elle est où? Sous vos pieds. Et donc, le problème de l'archéologue pour le Gaulois, pour matérialiser le Gaulois pour le simple Pékin, c'est très compliqué parce que, effectivement, il faut qu'on leur recrée par l'imagination cette ville et où, par les fouilles, on va en parler. Voilà.
Avant de parler des fouilles, est-ce qu'on peut situer dans le temps le site que vous êtes en train d'exhumer par rapport à d'autres sites gaulois ou gallo-romains de la région Nouvelle-Aquitaine?
Alors, je pense que là, c'est important de faire un petit récapitulatif des opérations archéologiques qui ont eu lieu sur la Pérouse. Donc, déjà, qu'est-ce qui a permis de dater le site? Et donc Christian Chevillot en parlait déjà, donc le matériel qui a été recueilli lors des prospections, les prospections pédestres c'est quoi? C'est-à-dire méthodiquement, avec un carroyage qui est spatialisé, on va recueillir le matériel qui est en surface, qui est comment dire, exhumé par les labours, et donc on va ensuite étudier, chaque spécialiste étudie selon sa spécialité, les céramiques, les amphores, les parures en verre, les parures en métal, les monnaies. Donc déjà on a une première indication sur la chronologie d'occupation du site. Et donc ce qui était très intéressant à la Pérouse, c'est qu'on avait une chronologie qui couvrait, comme des Christians, le 3e, le 2e siècle avant notre ère, ce qui nous renvoie en fait à des réalités qu'on connaît très peu à l'échelle européenne, celles des toutes premières villes qui apparaissent à l'échelle de l'Europe tempérée. Parce que longtemps, en fait, on a cru que c'était les oppidas, les premières villes. Donc vous savez, ces sites généralement de hauteur qui sont fortifiés, comme on a ici à côté, à Coulonnier-Chamier, donc on a la Curade,
on a un vol d'oiseau à un kilomètre de la Curade.
Un peu cette typologie, mais qui apparaît à la fin du 2e siècle avant notre ère. Or, ici, on est dans des réalités qui ont quasiment 200 ans, qui sont antérieures de 200 ans, donc on est vraiment dans l'amorce de ces phénomènes d'urbanisation qui apparaissent à l'échelle européenne et qui se matérialisent sur ce site de la Pérouse, dont tout l'intérêt de s'intéresser à ce site-là. Donc on connaît pour l'instant très peu de ces sites qui apparaissent au 3e siècle avant notre ère, vers moins 300. Donc pour l'instant, c'est une petite dizaine à échelle européenne. Donc il est évidemment permis de penser qu'il y en aura de plus en plus dans les années à venir, parce que ces sites, en fait, sont très difficiles à caractériser. Vu qu'il n'y a pas d'éléments monumentaux comme les remparts que l'on peut voir sur les oppidas, ben voilà, c'est des villes ouvertes, hein, donc forcément, leur limite n'est pas matérialisé, ou sinon par un fossé ou une palissade, quelque chose qui laisse très peu de vestiges dans la topographie, dans le paysage. Donc voilà, pour l'instant, la Pérouse peut se comparer à des sites donc antérieurs aux oppidas. On en connaît certains dans la région, donc le site de Lacoste notamment, donc qui se situe à Mouliette et Ville-Martin en Gironde, qui a été découvert dans les années 50 par Michel Sirex et fouillé dans les années 2000 par Christophe Sirex. Donc une désagglomération ouverte, précoce, que l'on connaît le mieux. Donc, quand on parle d'agglomération ouverte, voilà, donc on sous-entend qu'il s'agit de villes. C'est des vraies villes.
On a une estimation du nombre d'habitants,
alors,
grosso modo.
Pour le nombre d'habitants, c'est très difficile. Il faudra avoir plusieurs données qui nous échappent encore à ce jour. Par contre, ce que l'on peut dire, aujourd'hui, à travers les recherches que l'on mène, c'est que c'est une ville qui s'étendait sur plusieurs dizaines d'hectares. On en est certainement à plus de 40, plus de 50 hectares. On sait aussi que c'est une ville qui était organisée, c'est-à-dire une vraie planification urbaine en amont, avec certainement un centre culturel, un centre artisanal, un centre d'habitat, donc une vraie planification urbaine, donc une vraie ville au plein sens du terme. Donc justement, ce que je voulais dire à ce propos-là, c'est que maintenant, pour un peu avoir davantage d'informations, les prospections pédestres nous donnaient beaucoup d'indications concernant la répartition du mobilier, peut-être l'étendue du mobilier et la chronologie. Donc là, depuis 2018, on est rentré dans une autre phase. On a essayé de croiser différentes approches, dont les prospections géophysiques.
Voilà, j'avais eu l'occasion de vous rencontrer très brièvement sur le site au moment où vous lanciez les recherches géophysiques. Et moi, qui suis médecin de formation, ça m'avait un peu interpellé. Je me disais, tiens, qu'est-ce qu'il faut ? Un scanner, une IRM
IRM de la ville gauloise.
C'est un peu l'idée. Hein. Donc, vu qu'on est un peu prisonnier par les types de vestiges dont parlait Christian, en fait, qui ne laissent aucune trace sur le paysage actuel, c'est que des structures en creux, étant donné que les bâtis étaient en matériaux périssables. Donc là, l'idée est effectivement de réaliser comme un scanner sur une grande superficie. En fait, c'est essentiellement des prospections géophysiques magnétiques et électriques, c'est-à-dire on envoie des signaux magnétiques ou électriques dans le sous-sol, et suivant les réponses, on va obtenir une cartographie des anomalies du sous-sol. Ces anomalies qui sont représentatrices de structures, de bâtiments divers et variés. Donc, ce qui va nous donner des éléments de réponse, d'une part, sur l'étendue de l'habitat, est-ce qu'il y a des limites, vers où elles sont, donc quelle est la superficie de l'habitat, des éléments sur l'organisation aussi, est-ce qu'il y a des bâtiments spécifiques selon le lieu, et aussi sur des éléments de voie, d'environnement, du site, etc.
Tout ça à travers une espèce de cartographie de différence de densité entre les matériaux.
Exactement. Oui. Selon qu'on soit dans des creusements, sur des murs, sur du calcaire, la conductivité du signal magnétique ne va pas être le même. Et cette différence de conductivité, on va la reproduire donc, sur une cartographie, ce qui va nous donner un plan, entre guillemets, hein, des anomalies et de certains éléments urbains. Tout ça sans avoir à toucher. C'est une méthode vraiment non invasive, non intrusive.
Donc ça nous donne vraiment
C'est exactement ce procédé-là. Et donc là, c'est dans le cadre d'un projet qui est financé par la région Nouvelle-Aquitaine, un projet qui s'appelle Rhapsody, donc qui a été aussi aidé par l'Université Bordeaux-Montaigne. Et c'est ce qui nous a justement permis, en 2019, de mettre en évidence, sur le point culminant du site, donc Christian a dit qu'il occupait un plateau, un grand bâtiment quadrangulaire, fossoyé, de 25 mètres de côté, avec une ouverture à l'est et un bâtiment central, un plan qui évoquait vraiment celui d'un sanctuaire gaulois. Et pour l'instant, on n'en connaissait pas à ce jour en Aquitaine. Donc c'était une vraie découverte. Et donc c'est sur ce bâtiment que sont focalisées les fouilles de 2020.
Ça bouleverse un petit peu l'idée qu'on avait où on fait remonter les grandes villes et l'organisation urbaine et l'organisation de la civilisation romaine. Là, c'était quand même 200 ans
avant. Moi, déjà, le terme de civilisation romaine me gêne beaucoup. La romanisation, je n'y crois pas. Je crois à une acculturation au monde gréco-romain, mais pas simplement romain. C'est la Méditerranée, c'est la mer partagée qui va apporter un changement de vie. Mais c'est pas que les Romains. Les Romains, d'abord, ils ont tout piqué aux Étrusques. Ils ont piqué aux Grecs. Et vous savez que les Gaulois étaient très amis avec les Grecs et partageaient beaucoup plus avec les Grecs. Sauf pour le commerce du vin. On en reparlera. Mais je veux dire que les Grecs et les Gaulois seront très proches. Même dans la cosmologie du monde, la façon de voir les choses, etc. On pourrait lancer un débat très très long là-dessus. Les fouilles de Bibracte ont apporté, par exemple, quasiment la preuve que les théories de Pythagore, c'est les Gaulois qui l'apportent à Pythagore et pas le contraire. Donc c'est quand même, c'est pas anodin, quoi. Je veux dire, faut arrêter de prendre les Gaulois pour un peuple. Une petite civilisation, c'est une grande civilisation, qui est différente des autres. Alors, vous savez, on oppose toujours... mais les Romains, ils ont construit en pierre. Alors, je vous rappelle quand même qu'en 80 avant Jésus-Christ, la ville de Rome brûle entièrement, elle est en bois. On est en 80 avant. Donc, même à Rome, la construction en pierre, à part le temple de Vénus, qui lui était le temple de Jupiter, qui était en pierre, ils bâtissaient comme les Étrusques.
Ouais. Il faut aussi penser aux villes médiévales, hein, qui la plupart du temps, on le voit bien avec les maisons en colombage, entre autres, mais qui sont bâties en bois et en terre, en torchis. Hein, donc, et
Voilà.
pourtant, on a des villes vraiment monumentales qui se mettent en place à l'époque médiévale. Donc il faut imaginer la même configuration à l'époque celtique. Donc on a aussi, ça n'empêche pas, la monumentalité des bâtiments
Ben,
et même le fait d'avoir des centres urbains
vous savez, regardez, moi je vais
importants.
souvent en Étrurie, et tous les temples étrusques sont en terre et en bois. Et d'abord, les bois sont choisis en fonction de chaque dieu, c'est pas anodin. Et c'est des bâtiments qui ont la taille des monuments, comme on a pas Paestum, etc. Donc il faut. Je pense que cette notion qui nous est apporté, ben, qui date du 19e en fait, et où les Romains nous amènent la civilisation. Il faut arrêter à Périgueux, par exemple, la ville de Périgueux, la ville gallo-romaine de Périgueux. C'est les Gaulois, c'est les Pétrochores qui construisent la ville à la romaine. C'est pas les Romains qui sont venus construire. Vous imaginez, Rome, c'est un petit pet de lapin, hein, dans le monde antique, et ils ont construit des villes partout. Non, c'est pas possible. C'est des architectes qui envoient des plans et qui voilà, on construit à la romaine.
Maintenant, si vous voulez, essayer d'approcher d'un peu plus près les habitants de cette cité et à travers les vestiges que vous avez retrouvés, est-ce que vous avez une idée de quelles étaient leurs activités?
Alors là, les activités
Alors,
sont nombreuses, hein.
justement, quand on
Les
s'intéresse
principales.
au site de La Pérouse, ce qui est intéressant, donc c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ces premières villes, de ces premières agglomérations qui apparaissent à l'échelle européenne. Ce qui est très intéressant quand on étudie ces agglomérations, c'est en fait, bon, d'une part, ces agglomérations sont en elles-mêmes une innovation, c'est-à-dire c'est une nouvelle manière de concevoir l'espace, de concevoir l'habitat, parce qu'on a vraiment une agglomération
Et la
donc de
vie
l'habitat,
sociale.
de la vie sociale aussi, donc l'organisation de ces premières villes. Donc c'est déjà une innovation en tant que vivre ensemble, en tant que concevoir l'espace, en tant que concevoir l'habitat. Voilà, donc c'est déjà en elles-mêmes, ces agglomérations, dont La Pérouse, sont une innovation. Mais en plus de ça, c'est vraiment des sites qui vont elles-mêmes concentrer plusieurs innovations. Donc, dont les activités qui vont y prendre corps, qui vont s'y agencer. Et notamment, donc on peut parler de l'artisanat, parce qu'on a vraiment à cette époque-là, au IIIe siècle avant notre ère, sur ces villes, une nouvelle manière de concevoir l'artisanat, avec, bon, comme certains l'ont dit pour Lacoste, notamment un artisanat quasi-industriel. C'est-à-dire on a vraiment une standardisation des tâches. On a une production quasi à la chaîne de certains objets manufacturés. Vraiment, donc, on le voit bien, hein, dans la chaîne est vraiment régulée de manière à produire des objets uniformisés,
en masse,
pour ensuite, au-delà de la consommation propre de la ville, ce sont des objets qui sont faits pour l'exportation. Donc vraiment, c'est quelque chose d'important. Donc, une innovation dans la manière de produire, dans l'artisanat, l'artisanat donc, de masse. En plus de ça, on a aussi donc, l'importation qui va prendre aussi une autre importance avec un commerce qui est en lien avec la Méditerranée, mais la Méditerranée notamment lointaine. Donc les travaux de Joël Roland, notamment sur le verre, nous ont montré que le verre est importé de la côte syro-palestinienne. C'est des lingots de verre qui sont importés d'Égypte et de la côte syro-palestinienne et qui sont ensuite fabriqués peut-être sur place. Donc voilà, donc, ce qui montre aussi l'ampleur des réseaux économiques. C'est vraiment des gens qui sont connectés à échelle monde. Et d'autre part aussi une innovation en termes économiques. C'est-à-dire c'est dans ces villes que, que va apparaître pour la première fois la monétarisation des échanges. C'est-à-dire que c'est la première fois que la pièce s'introduit dans les transactions pour faciliter les échanges. La première fois à l'échelle de l'Europe tempérée qu'on adopte les pièces de monnaie, cette innovation quand même qui nous paraît transcendantale.
Ça va, à la place du troc, on va prendre, c'est quand même un changement extrêmement important dans la façon de vivre en société.
Une autre question plus technique, vous parliez de commerce avec la Méditerranée, et comment cheminaient les denrées?
Le vin, la plupart du vin qui arrive en masse, c'est... actuellement, on a en termes de masse de tessons d'amphore, on est parmi les plus grands sites français, comme Bibracte, comme Coran, etc. Ça veut dire qu'il arrive des dizaines de milliers d'amphores qui arrivent de Méditerranée. Donc, ça nécessite une organisation extrêmement importante et un commerce. Alors, ce vin part souvent, la plupart du vin qui arrive chez nous vient d'Albinia, c'est du vin étrusque, pas romain. Ce vin part en face de l'île d'Elbe à peu près, là, va remonter les côtes et il va arriver à deux endroits. Deux endroits, c'est Marseille, mais beaucoup moins qu'à Latte. Latte, c'est Montpellier. Et de là, ils vont aller jusqu'à Narbonne. Narbonne, on va prendre l'axe donc, de l'Aude, on arrive à Toulouse, et là, c'est l'axe Garonne. Alors, ils vont inonder, à partir du IIe siècle, ils vont inonder le marché côté Atlantique, avec le vin italien, alors qu'avant, c'était la vallée du Rhône qui était importante.
Et l'axe Garonne, mais il est pris par la route, là. Il n'est pas pris par voie fluviale.
Par voie fluviale.
Par voie fluviale.
Par voie fluviale. Mais il devait y avoir aussi, certainement, des remontées le long de... Mais on est... Par exemple, on est à peu près sûr qu'entre Libourne et Périgueux, à l'époque gauloise, il y a un chemin de halage.
Oui. Et puis, il faut aussi penser aux affluents de la Garonne. La Garonne est un fleuve capricieux. C'est vrai que c'est un fleuve qui est capricieux. Les affluents aussi sont certainement très sollicités. Hein. On pense au Lot, à la Dordogne, par exemple. Hein. Donc, et évidemment, les routes, hein, les routes qui sont très développées, déjà à l'époque gauloise, évidemment.
Au passage, je viens de noter que vous avez tordu le cou à Goscinny. Parce que les Gaulois, ils ne buvaient pas beaucoup de cervoise, ou en tout cas, ils buvaient du vin.
Il faut faire attention à ça. Les Gaulois consomment beaucoup de ce qu'on appelle par erreur de la bière, parce que les Gaulois ne savent pas faire de bière. La bière que vous connaissez actuellement n'apparaît qu'au XVIIIe siècle, avec des bulles. Avant, on boit du vin d'orge. Ce n'est pas pareil. Moi, j'en refais, donc je sais de quoi je parle. C'est du vin d'orge. Alors, c'est un... Il y a plusieurs types de vins, des vins à longue conservation et à petite conservation. Mais enlever le terme de cervoise et préférer celui de Cormin.
Je suis fils de vigneron, donc j'ai retenu une chose d'une conférence que vous aviez faite. C'était aussi que les Gaulois, eux, ne conservaient pas trop, du moins pour la longue conservation, ne conservaient pas dans de la terre mais dans du bois. Boisson.
Pas forcément. Non. Alors, attendez. L'amphore va avoir une importance, celle de la terre, effectivement. Ça revient à la mode en Bordelais, j'ai vu. Et par contre, l'invention du tonneau, c'est une chose. Mais le tonneau, n'oubliez quand même pas, il est peu utilisé. Pourquoi? Parce que c'est un contenant qui coûte cher et qu'il faut rendre à son propriétaire qui vous a envoyé le vin dedans. Ça nécessite un double commerce. Alors que l'amphore, on a des esclaves qui les fabriquent en milliers. Alors, il arrive, écoutez, entre 150 et 30 avant Jésus-Christ, Tchernia et Brun ont montré qu'il rentrait minimum 1 million d'amphores de vin de 26 litres, 5, par an en Gaule. Est-ce que vous vous rendez compte l'importance du commerce? C'est quelque chose de fabuleux. Alors, ce vin est redistribué. Vitruve nous dit que les Gaulois pouvaient échanger un esclave contre une amphore de vin. Et que quand ils buvaient, ils tombaient par terre. C'est vrai qu'eux, quand ils faisaient des orgies, même en coupant le vin avec l'eau, ils tombaient aussi par terre. Il faut le rappeler quand même.
Bien. Alors, une question sans doute un peu idiote, c'est est-ce qu'on sait quel était le nom de cette cité à l'époque? Est-ce que ça a à voir avec la dénomination actuelle de la Pérouse? Quelles sont les relations possibles?
Ben écoutez, le nom de la Pérouse peut être issu de deux sources. D'abord localement, parce que la Pérouse, il y a énormément de minerais de fer, donc la pierre rouge, oui, en patois, en occitan local. Ok, mais ça peut venir aussi de la famille des Rochon de la Pérouse qui ont investi le site, pas exactement d'ailleurs à la Pérouse, mais un peu plus loin à la Pouleille. La Pouleille en patois d'ailleurs, ça, c'est, vous savez, c'est un carrefour important où on mettait les pendus à la poulie. La poulaille, pour bien montrer
Oui,
qu'il y avait,
comme les potences à soi,
voilà,
oui.
il y avait une juridiction qui fonctionnait. Et donc ils habitaient plutôt à cet endroit-là. Mais voilà, donc on ne sait pas. Par contre, on a oublié quand même de dire une chose, c'est que les habitants, est-ce qu'ils s'appelaient déjà ou pas les Pétrochors? Parce qu'on ne sait pas à quel moment, ça fait partie aussi de notre quête, à quel moment ce peuple a décidé de se nommer Pétrochor, comme d'autres, les Movis, etc. On ne sait pas si au troisième, au deuxième ou au premier problème, mais on pense plutôt dans le deuxième siècle. Donc c'est plusieurs fractions en arme, parce que Pétro, 4, 4, et Corii, Corii, en gaulois, c'est une population dirigée par un chef en arme. Les Gaulois ont une société qui préfigure la société médiévale, hein, avec des chefs en armes qui ont sous leur coupe des paysans et des artisans. Et eux, ils vont faire la guerre. Bon, alors, voilà, et ces Pétrochors ont donné le nom à Périgord et à Périgueux.
Bien, je crois que nous arrivons presque au terme de cette émission. Je vous remercie beaucoup. Et surtout, ça nous a permis de voir que, en Périgord, entre les périodes de la préhistoire et la période romaine puis médiévale, qui ont laissé beaucoup de traces, eh bien, il y a autre chose. Avec des peuplements aussi importants qui ont constitué en quelque sorte une civilisation.
Moi, je pense que personnellement, c'est la période la plus importante de notre civilisation périurbaine et française. Pourquoi? Parce que c'est la mise en place justement de ces villes, la préfiguration de notre société à tout niveau. Et en plus, ces gens-là sont mentalement beaucoup plus proches de nous que ceux du Moyen-Âge.
Oui, il faut voir aussi la trace qu'ils ont laissée, même dans la dénomination des régions actuellement. Donc, le Périgord, ça vient des Pétrochors. Le Limousin, les Lémovis. Le Quercy, les Cadurques. Donc, c'est vrai que les régions que l'on dénomme actuellement, elles sont
Poitiers, les
issues
Pictons, etc.
De ces grands territoires-là, hein, qui étaient des territoires des populations celtiques.